Le grand jury de la presse immobilière. Une émission en partenariat avec Bien Ici, présentée par Sylvain Lévy-Valency sur Radio Immo.
Eh bien, bonsoir à toutes et à tous. Il est 18h31. On a juste une minute de retard, donc on a fait des progrès. Merci à toutes et à tous d'être avec nous. Vous êtes avec nous tous les mois. C'est la 6e édition de la rentrée du grand jury de la presse immobilière. Bienvenue dans ce numéro, février 2025. On va parler d'immobilier qui est sévèrement chahuté. Un programme sur lequel on va égrener et la copropriété, et la location, et la transaction, et bien sûr l'actualité politique, on ne peut pas ne pas en parler, notamment cet article qui est passé pas plus tard que ce matin sur les réseaux sociaux. Enfin, nous allons avoir un décret pour la formation, une loi qui a été votée il y a 11 ans quand même, donc il serait peut-être temps de le faire. On en reparlera tout à l'heure avec, bien sûr, notre invité. On va retrouver, bien évidemment, en première partie, notre ami Régis Sebi qui va nous donner l'alpha et l'oméga de la météo de l'immobilier. Et Dieu sait que le temps a beaucoup changé ces derniers temps. On va en parler avec Régis. Ensuite, on aura la revue très attendue de nos journalistes de la rédaction et nos collègues de la presse immobilière. Et enfin, nous allons recevoir tout à l'heure notre grand invité. Il est avec nous sur le plateau. C'est Olivier Sapard, qui est président de l'UNIS Grand Paris. Il est également le président de CaliSR. On va en parler. C'est au sujet des copropriétés, qui est vraiment à l'instar de l'actualité où des immeubles s'effondrent, où les difficultés des copropriétés sont de plus en plus importante, on va en parler. C'est un sujet majeur pour la vie des Français. Voilà pour le menu de notre rentrée avec ce grand jury du mois de février. Bien sûr, accompagné de nos journalistes habituels qui ont fondé d'ailleurs le grand jury de la presse immobilière. On ne pouvait pas le faire sans lui notamment. Il sévit au point depuis plusieurs années, la plume acérée de l'immobilier. Bruno Monnier-Vinard, bonsoir.
Bonsoir Sylvain, bonsoir
à tous.
Ça va bien, merci.
Moi je suis ravi de vous voir. Grâce à vous, on fait toujours un parcours. Je crois qu'aujourd'hui, on va aller au Japon grâce à vous. Merci d'être avec nous. La voix de l'immobilier est avec nous également sur le plateau. Le tout nouveau membre du grand jury de la presse immobilière, c'est Anthony Denet.
Bonjour Sylvain, bonjour
voilà.
À tous.
Ah, je t'ai pas loupé sur toi.
Ah ça. Non.
Merci, voilà, journaliste à ImoWeek, journaliste immobilier. Merci Anthony d'être avec nous. Bien évidemment, nous avons également l'un grand monsieur de l'immobilier, journaliste, qui fut journaliste, rédacteur en chef à Capital, qui est maintenant journaliste à l'Informé. Il est avec nous sur le plateau, quelle chance. Guillaume Chazoulière, bonsoir.
Bonjour Sylvain, bonjour à tous.
Quel plaisir de
vous
voir.
Quel plaisir de revenir, c'est la deuxième fois.
Quel plaisir, ça fait six ans que je fais des émissions avec vous, et vous nous manquez beaucoup, et d'ailleurs au sein de la rédaction, on l'a dit, on est très heureux que vous soyez parmi nous. Et également, nous avons quelqu'un, ça va être aussi la grande surprise de ce numéro de février 2025, lorsque nous avons créé le groupe en 2015 avec Olivier Lucas, le groupe Web Radio Édition, le tout premier rédacteur en chef, directeur des rédactions qui nous a accompagnés et qui a participé très largement au succès de notre média. Ensuite, il a suivi une autre route et on l'a invité sur notre plateau. Il est avec nous, c'est Eric Cala.
Bonjour Sylvain, bonjour à tout le monde.
Bonsoir Eric.
Bonsoir, oui, c'est à cette heure-ci, on dit plutôt bonsoir. Je suis ravi d'être là, ça fait tout drôle d'être dans ce studio.
C'est vrai, hein.
Ouais, mais ouais. C'est un grand plaisir.
Vous l'avez connu depuis l'origine,
ouais. Hein,
puisque vous l'avez aménagé avec nous,
on l'a inauguré. Je l'ai vu monter, ouais.
On l'a vu monter, voilà. Et vous êtes également maintenant journaliste aussi pour ImoWeek en particulier, où vous publiez régulièrement toutes les semaines un podcast.
Tous les jours.
Qui est écouté par tous nos amis, tous les jours.
Voilà, tous les jours, voilà, c'est devenu quotidien, absolument.
Voilà, ouais. Une quotidienne qu'on attend bien évidemment, puisque ImoWeek aujourd'hui, c'est le journal de référence du secteur. Merci Eric Cala d'avoir accepté notre invitation. Et bien évidemment, toute l'équipe est très heureuse de vous revoir. Bien entendu,
merci.
Bonsoir
pour votre
Olivier Sapard.
Bonsoir Sylvain, bonsoir à tous.
On est très heureux de vous recevoir également.
Merci.
Alors vous êtes le président de l'UNIS Grand Paris et vous êtes également, on en parlera tout à l'heure, et vous nous expliquerez le fonctionnement de CaliSR. Merci de vous prêter au jeu des questions des journalistes. Voilà pour le sommaire de l'émission. C'est parti pour la météo de l'IMO.
La météo de l'IMO, par Bien Ici.
Comment va notre Régis national ?
Eh ben, très bien, et vous ?
C'est toujours un plaisir de vous avoir, Régis, sur le plateau. C'est vous qui nous donnez l'alpha et l'oméga des données immobilières. Je vous propose de faire un point en ce début d'année sur le marché locatif et également un petit focus, voire même un grand focus sur la rénovation énergétique. Bref, le chantier du siècle est celui qui fait grincer. On va commencer par l'année 2025, grosso modo. Aujourd'hui, on peut dire qu'elle a démarré comment ?
Alors déjà, on a des bons signaux de reprise sur 2025 sur le marché transactionnel. Si on regarde déjà cette reprise, on l'avait un petit peu anticipé en 2024 avec des bons signes, notamment qui étaient corrélés avec la baisse des taux de crédit qui permettait un meilleur financement pour les acquéreurs. Sur ces bons signes, on va avoir une offre qui avait déjà augmenté de l'ordre de 50% entre mi-2022 et mi-2023 et qui commence à montrer des signes de baisse depuis le deuxième semestre 2024. Donc on est toujours dans cette baisse. Et si on regarde les chiffres, on est plutôt aux alentours de 5% de baisse au niveau national sur les 12 derniers mois. Et une baisse qui se veut plutôt urbaine, c'est plutôt 7% sur les villes, 3% de baisse au niveau périurbain, et on est aux alentours de plus 0, plus 1% en termes rural.
Mais c'est des chiffres, de moyenne nationale, on est d'accord ?
Oui, de moyenne nationale.
Okay. Il peut y avoir des hétérogénéités, bien sûr, de ville en ville.
Exactement. Juste avant de parler des grandes villes, et surtout ce qui montre ces signaux de reprise, ça va être la demande. Et la demande, sur les 12 derniers mois, elle évolue nettement au niveau national de plus 13%, et c'est une demande qui augmente davantage en ville qu'au niveau rural. On est à plus 15% en ville, plus 3% en périurbain, et on a une baisse de moins 4% au niveau rural. En gros, la demande, elle se veut fortement dans les zones d'activité, donc les bassins d'emploi, forcément. Et quand on regarde cela de plus près, sur les grandes villes, les grandes métropoles, on est même à plus 38%. Quand on regarde sur les villes de 100 à 200 000 habitants, on est de l'ordre de 16 à 18% de hausse de la demande. Et un exemple assez concret, ça va être la métropole de Bordeaux ou Nantes. On peut prendre plusieurs villes des grandes métropoles de province qui fonctionnent bien, mais j'ai l'exemple de Bordeaux ici, où on a une demande qui a progressé de plus 48% entre janvier 2024 et janvier 2025.
Énorme.
Donc une demande qui est assez importante.
Comment on peut l'analyser ? C'est quoi ? C'est la baisse des taux ? C'est Bordeaux redevient bankable ? Parce que Bordeaux avait quand même sévèrement dérouillé dans la baisse des prix.
Alors, va y avoir la baisse des taux, l'augmentation de la confiance et l'augmentation de la confiance dans un pouvoir de financement d'un bien. Parce que l'envie d'achat est toujours là. Il a été restreint, notamment par le financement ces dernières années, mais l'envie est toujours là. Et à partir du moment où on a des prix qui baissent, des taux qui baissent aussi, forcément, on se lance davantage.
A priori, vous faites un carton plein en audience sur votre site.
Alors, un carton plein, oui, si on veut résumer assez simplement, ça va être plus 20% d'audience sur le site sur les 12 derniers mois. Enfin, si je compare en tout cas janvier 2024 à janvier 2025. Et on est à presque 19 millions de visites sur le mois de janvier dernier.
Wow, donc. C'est colossal. Ça vous place aujourd'hui toujours numéro 3 sur le podium ?
Bon, nous, on est toujours numéro 1 dans
Bon
Coin. Nos cœurs, mais oui.
Il faut juste rappeler que Le Bon Coin, comme Se Loger, existe depuis plusieurs années, que vous n'existez que depuis 10 ans, parce que vous allez fêter vos 10 ans là, cette année, que ce que vous avez fait, c'est juste incroyable. Et là, c'est l'irrésistible ascension de Bien Ici. Alors, le sujet, on en a beaucoup parlé avec vous, Régis, et vous, les amis, c'est le marché locatif qui est toujours aussi grippé.
Alors oui, c'est toujours paralysé.
Ça bouge pas. Hein.
Alors ça bouge pas. Si on regarde sur les 12 derniers mois, l'offre, elle a baissé encore d'à peu près 6%. La demande augmente que légèrement de 1%, mais elle est très très forte. Donc cette hausse de la demande, en fait, on la voit pas, mais elle est immense sur un marché qui a été divisé par 2 voire 3 en termes d'offres sur les 3 dernières années.
C'est incroyable. C'est vraiment un sujet majeur, qui est même un sujet terrible pour le logement des Français, parce que ça pousse les Français à accepter absolument n'importe quoi comme type de logement, à l'heure même où on a un calendrier qui interdit les passoires thermiques. Et moi, je vois pas des Français qui vont dire « Attendez, vous êtes bien gentil, mais vous allez rénover mon appartement. Je suis tellement heureux de trouver un logement qu'à la limite, je mets mon voile dessus. » C'est ça qui peut paraître assez dur à entendre.
Alors exactement, si on regarde au niveau des loyers, on voit une hausse des loyers de l'ordre de 2,5% parce que l'offre est réduite et forcément, elle peut être de moindre qualité,
bien
mais
sûr.
Quand il n'y a que ça, ça gêne
justement
un petit
sur
peu le marché.
Oui. Là, aujourd'hui, est-ce qu'on peut, on est en état de faire un petit recul avec, justement, au 1er janvier 2025, le retrait des étiquettes G. Qu'est-ce que vous pouvez déjà nous dire, là ?
Alors, là, déjà, ça n'a pas aidé forcément le marché, parce que les G...
Est-ce que ça a retiré, vous l'avez vu ?
Alors, globalement, c'était à peu près 3% de l'offre, les G, de ce qu'on pouvait diffuser sur le marché. C'était très moindre. Ça a été amoindri parce que beaucoup de G sont passés sur le marché transactionnel, des propriétaires qui ont préféré vendre plutôt que de rénover. Et si on regarde surtout le calendrier qui va arriver. Là, ça fait deux mois qu'on est passé sur l'interdiction des G. Dans moins de trois ans maintenant, ça va être les F. C'est à peu près 8% de l'offre locative actuelle. Donc on réduit encore, réduire cette offre locative dans un marché qui est extrêmement tendu. Si on regarde plus précisément les F et les G, on va avoir majoritairement des petites surfaces, des studios et des T2. Et dans l'offre de studios actuelle, 13% CDF. Donc c'est autant dire que la demande principale des locations, c'est les petites surfaces, et beaucoup de ces logements sont bientôt interdits.
C'est triple peine, quadruple peine, c'est-à-dire que non seulement c'est une tannée pour se loger, les étudiants sont souvent la variable d'ajustement, et on l'a vu quand on fait le tour des villes de France avec mon ami Marin du Figaro, où on voit des jeunes qui vivent carrément dans leur voiture pour ne pas lâcher les études, ça s'améliore pas. Vous vouliez nous dire un mot sur le DPE collectif.
Oui, justement, en fait le problème du DPE, le DPE pose problème sur ce marché locatif parce qu'il réduit l'offre. Oui. Et si on regarde bien pour les propriétaires bailleurs qui veulent faire des travaux, parfois les seuls travaux du logement ne suffisent pas. Parce que dans ces T1 et ces T2, principalement les studios, beaucoup d'entre eux sont dans des copropriétés, parfois en rez-de-chaussée, parfois en dernier étage. Et si on veut gagner une note ou deux, gagner simplement une note, passer de G à F, retarder le problème de seulement deux ans. Si on veut vraiment gagner une note, des fois, ça nécessite des travaux plus larges au niveau de la copropriété. Oui. Et ça va être un peu le sujet.
Alors, on en parlera tout à l'heure, bien sûr, avec notre invité, parce que rénovation intérieure et extérieure, c'est aussi une réduction du volume du mètre carré. Je peux vous dire que quand on a acheté un mètre carré à 11 000 euros, on rechigne un peu à essayer de le réduire, par exemple, de 2 mètres carrés quand même. C'est pas simple. Et puis, il y a aussi les problématiques de toiture, où souvent les petites surfaces sont sur des étages élevés et que sans travaux d'ampleur, c'est-à-dire de la copropriété, il n'y aura pas d'impact en fait sur le logement individuel.
Et les gros travaux intérieurs, si on veut faire l'isolation des murs intérieurs, c'est réduire ces mètres carrés d'à peu près 5 à 7%, ce qui est assez énorme. En fait.
Quand on voit les prix, il faut bien qu'on comprenne, vous êtes d'accord, les Français dans ces domaines. Alors, il faut juste qu'on rappelle, depuis le 1er janvier 2024, il est obligatoire pour les immeubles en monopropriété et les copropriétés de plus de 200 lots. Oui. Depuis le 1er janvier 2025, obligatoire pour les copropriétés comportant entre 50 et 200 lots. Et au 1er janvier 2026, il sera obligatoire pour les copropriétés de maximum 50 lots. Toutes les copropriétés.
Toutes.
Même celles qui ont 5, 6.
Même celles qui ont 2 copropriétés, pas 2 lots.
Eh bien, on n'est pas dans la merde, je vous le dis tout de suite. Alors, une obligation souvent bloquée, bien sûr, on va en parler tout à l'heure, par les assemblées générales, par, encore une fois, on a des copropriétés qui sont régies par le principe de la démocratie. Ça reste aussi un sujet, bien sûr, à examiner. Bah, clairement, il reste du boulot. On va en parler avec notre invité. Et juste avant, on va passer à la séquence que vous aimez bien, les amis. C'est la revue du grand jury.
Le grand jury de la presse immobilière, la revue du grand jury.
Alors, la revue du grand jury, comme vous le savez, je vous rappelle le principe, nous avons nos journalistes préférés de la presse immobilière qui nous donnent chacun, chaque mois, un coup de cœur, un coup de gueule. Vous, Eric, qui venez dans cette toute nouvelle mission que nous avons construite, voilà, l'idée, c'était d'essayer de voir un petit peu comment l'humeur, vous avez carte blanche. Mmh. Alors, vous voulez d'abord, mon cher Eric Alain, prononcer un coup de gueule. Voilà, a priori, c'est un coup de gueule contre la SAFER. Vous allez d'abord nous expliquer ce que c'est.
Oui, la SAFER, effectivement, la Société d'aménagement foncier et d'établissement rural, qui, depuis sa création, est un organisme censé dynamiser l'agriculture et protéger l'environnement, qui s'est un petit peu éloigné de sa mission initiale pour devenir un acteur controversé du marché foncier. En fait, c'est une affaire que j'ai ressortie, d'abord parce qu'on m'en a reparlé lundi dernier, et aussi parce qu'on est en plein dans le salon de l'agriculture en ce moment, donc je me suis dit, tiens, c'est un sujet qui est un peu d'actualité. Alors, la SAFER, donc, qui est initialement conçue pour favoriser l'installation des jeunes agriculteurs et protéger les espaces ruraux, est devenue un intermédiaire de transactions immobilières en zone rurale, concurrençant directement ainsi les notaires et les agences immobilières.
Ah, quand même.
Ouais. Alors, cette situation a déjà été dénoncée par la FNAI, notamment en 2018, et depuis, elle n'a fait que s'aggraver. On a revu ce sujet qui revenait régulièrement dans l'actualité. Elle utilise la SAFER, son statut particulier, pour intervenir dans des transactions et monnayer des autorisations d'exploiter. Et ça crée forcément une concurrence.
Mais la SAFER, c'est public, on est d'accord.
Absolument.
Donc, l'État s'immisce dans... Ah oui, c'est intéressant.
Voilà. Alors, si on remonte à 2016, la SAFER avait acquis 10 500 biens pour une valeur de 1,26 milliard d'euros, dont seulement 12% dans le cadre de sa mission initiale. Le reste, 88%, avait été acquis par des intermédiaires classiques en dehors de son champ d'action. Voilà. Alors, cette situation ne s'arrange pas. Elle s'est plutôt accentuée et faisant ainsi de la SAFER le premier acteur de la financiarisation de l'agriculture. Une situation qui a conduit à une augmentation, bien sûr, des prix du foncier et qui rend l'accès à la terre encore plus difficile pour les jeunes agriculteurs. Donc aujourd'hui, il est urgent peut-être de redéfinir ce rôle de la SAFER. C'est en tout cas ce que m'a dit Marie-Laure Leclerc de Souza, qui est présidente de la commission FNAIM Entreprises et qui prépare un communiqué qui devrait sortir dans les jours qui viennent, un communiqué en ce sens.
Donc, affaire à suivre. Absolument. Vous avez également un coup de cœur, mon cher Eric, et je le partage complètement. C'est le chantier de BNP Paribas Real Estate pour le site de l'APHP à Paris.
Absolument, c'est au cœur de Paris, donc un projet qui est assez innovant, la reconversion du siège historique de la PHP en un quartier mixte et durable, ça a été baptisé Hospitalité Citoyenne. Ce chantier donc est mené par BNP Paribas Real Estate, vous l'avez dit, en partenariat avec Absys et RATP Solutions Ville. Il s'agit de transformer 27 000 mètres carrés de bureaux en un véritable micro-quartier ouvert sur la ville, et bien placé, hein, puisqu'on est en face de l'hôtel de ville. Un projet donc qui intègre une démarche d'économie circulaire exemplaire, les matériaux issus de la constructions sont réemployées ou recyclées et des isolants biosourcés sont utilisés pour améliorer les performances environnementales des bâtiments. Le site sera également connecté au réseau de chauffage urbain de Paris alimenté par plus de 50% d'énergie renouvelable. Donc tout cela est très positif. Mais Hospitalité Citoyenne ne se contente pas d'être écologique. Le projet inclut 6100 m² de logements sociaux, une résidence pour jeunes actifs, une maison d'accueil pour femmes en détresse, ainsi que des commerces et des services solidaires. Un cœur d'îlot ouvert et végétalisé va recréer un lieu de déambulation et de convivialité pour favoriser la biodiversité en luttant contre les îlots de chaleur urbains. Tout cela donc est très très bien pensé. Et ce qui est la petite cerise sur le gâteau, moi que je trouve très très intéressante, c'est qu'en attendant le démarrage des travaux, le site accueille actuellement et temporairement des structures de l'économie sociale et solidaire sous le nom d'Arches Citoyennes. Les Arches Citoyennes, donc un tiers-lieu d'occupation transitoire à vocation sociale, implanté juste dans ce chantier sur 30 000 m². Les deux bâtiments donc de la PHP, Victoria et Saint-Martin, sont investis par des artistes, des artisans, des associations et structures de l'économie sociale et solidaire issues de toute l'Île-de-France. Donc pour faire vivre ce lieu, et plus de 1200 personnes aujourd'hui travaillent sur place au quotidien et participent à faire vivre ce lieu à travers des collaborations, des échanges et des rencontres. Donc tout cela est très 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 positif, sachant que le chantier devrait en a encore pour 4-5 ans d'après ce que nous disait...
On appelle ça l'urbanisme transitoire, mais de très bonne qualité, une convention d'occupation qui permet d'émerger à des prix quasi nuls. Je trouve ça extrêmement bien, c'est vraiment un très beau projet. Merci Eric Cala. Guillaume Chazoulière, est-ce qu'on a un coup de cœur ou on a un coup de gueule selon vous aussi ?
Alors, un coup de cœur.
Allez, le coup de cœur. Alors, écoutez bien les amis, ça vaut la peine.
Non, je sais pas si... Enfin oui, c'est très intéressant. Oui, vous en avez parlé tout à l'heure, c'est un des sujets de la semaine, c'est... Et pourtant, on l'a attendu pendant 10 ans. Enfin, les professionnels l'ont attendu pendant 10 ans. C'était un décret de la loi Allure sur la formation initiale des collaborateurs habilités. Donc, des mandataires, des salariés, c'est ça, qui travaillent dans les agences, qui travaillent sous la responsabilité d'un agent immobilier titulaire d'une carte. La FNAIM avait déposé un recours au Conseil d'État et a gagné cette semaine. Donc, on attend maintenant le décret dans 6 mois.
Oui, c'est le Conseil d'État qui a tranché.
Le Conseil d'État a tranché et on attend le gouvernement. À 11 juin, le gouvernement a publié un décret dans les 6 mois. Donc, à définir les contours de ce que sera la formation initiale de ces collaborateurs qu'on estime à un peu plus de 100 000, 120 000, me dit-on, mais je ne sais pas si vous partagez les mêmes chiffres.
Si on prend les mandataires, Olivier Sapin.
Il faut prendre en réalité d'un côté tous ceux qui travaillent dans les agences immobilières en transaction, mais aussi tous ceux qui travaillent en gestion locative, c'est-à-dire en gestionnaire locatif, ou en syndic de copropriété pour les collaborateurs. Donc si vous prenez que la transaction, vous aurez un peu moins de monde puisque vous allez rajouter les mandataires, mais si vous rajoutez effectivement toute la partie gestion locative et copropriété, vous risquez d'être plus proche des 150 000 ou 200 000.
Ça veut dire que ça concerne les administrateurs de biens, les syndics de copropriété, oui, et les agents immobiliers. Donc les trois cartes, carte T, carte, oui, S et carte G.
Oui.
Quand même, Remarquez, au bout de 11 ans, ça doit vous faire sourire de voir. 11 ans, quand même.
Oui, oui. Non, mais, donc c'était.
Non mais, c'est quand même, non, mais je veux dire, c'est normal. Je veux dire, s'il y en a qui ne sont pas tout à fait d'accord avec la sortie du décret, il faut que juste leur rappeler que la loi, elle a quand même été votée il y a 11 ans.
Donc j'imagine que vous soutenez totalement.
Nous, on soutient tout à fait ça, parce que globalement, vous imaginez que pour certains qui n'ont pas la formation initiale de niveau minimum, c'est d'avoir un complément de formation par rapport à ce qu'ils ont fait pour pouvoir justement intégrer ces métiers. Alors n'oubliez pas que vous allez avoir une partie du décret qui va dire que quand vous êtes déjà diplômé de fac de droit ou de certains diplômes équivalents bac plus 3 ou bac plus 5, vous n'aurez pas besoin peut-être de la formation initiale, mais pour tous les autres effectivement qui rentrent avec le bac ou même sans le bac, qu'ils aient ce point obligatoirement en fonction de leur formation d'origine avec ces compléments par rapport au métier, que ce soit de la partie déontologie, que ce soit de la partie métier, soit transaction, gestion ou syndic de copropriété, bah, il faut l'apprendre, ça s'apprend, et pour pouvoir le mettre en œuvre sans difficulté.
C'est très clair. Un coup de cœur
J'ai fait un pas sur le coup de gueule ce mois-ci. Oui. Quand on trouve pas, on trouve pas. je reviendrai avec
c'est
un coup de gueule.
Pas avec vous. Hein,
bon. Non, je voulais pas inventer un faux coup de gueule.
Non, mais vous en avez fait quelques-uns là récemment.
Donc là, je fais l'impasse.
Voilà. Merci à vous. Merci Guillaume. Anthony, on a un coup de gueule. Alors, contre la communication politique qui s'empare du combat anti-Airbnb, on est hyper attentif à ce que vous allez dire.
Mais moi, j'ai réussi à trouver un coup de gueule. J'ai intitulé ça les matamores de la politique locale. Attendez, parce que c'est assez marrant. Après, donc, Anne Hidalgo à Paris, on a appris cette semaine que le maire d'hiver gauche de Marseille, donc Benoît Payan, endosse le costume de Zorro provençal, pourfendant les méchants et les cyniques spéculateurs. Alors, il a eu cette phrase, donc, j'ai toujours dit qu'à Marseille, nous aurons la réglementation la plus stricte et la plus forte de France pour lutter contre les meublés de tourisme. Je pense que c'est assez clair. Et dans les faits, donc les mesures qu'il a annoncées touchent notamment donc les propriétaires de meublés touristiques qui seront limités à 90 jours de location par an contre 120 aujourd'hui.
Exact.
Donc, en gros, on réduit de 30 jours. Bon, ma foi, a priori, ce sera efficace. Pour les résidences secondaires, il y a une autre mesure qui sera adoptée donc à partir du mois prochain et qui contraindra les propriétaires donc de ces résidences à mettre un autre logement de la même surface et situé au sein du même quartier sur le marché locatif classique. Alors, encore faudra-t-il que les propriétaires en question soient multi-investisseurs, puisque ça suppose d'avoir quand même deux biens à mettre à la location, donc un sur le logement touristique, l'autre sur le
résidentiel
classique,
oui.
Exactement. Et alors, là c'est encore plus fort, les fameuses boîtes, vous savez, les boîtes où les touristes venaient récupérer leurs clés pour profiter d'un séjour quand ils n'avaient pas directement.
Ils en ont parlé partout à la télé.
Voilà, quand ils n'avaient pas la chance.
C'est interdit maintenant.
Ouais, c'est interdit en tout cas.
C'est le maire, hein, c'est le maire.
Oui, oui, alors elles sont cadenassées par des brigades spéciales dédiées à cet effet. Donc il y a des gens à Marseille qui sont payés pour cadenasser ces fameuses boîtes où on récupère ses clés pour avoir accès à son Airbnb. Donc a priori c'est ça le progrès aussi. Donc la chasse à Airbnb principalement, mais aussi à Booking et à Britel, parce qu'il n'y a pas que Airbnb qui propose ces logements touristiques, manifestement est bel et bien déclaré à Marseille. Alors sauf que cette mesure apparaît quand même un brin populiste au regard de ce qu'elle apporte réellement. Donc déjà, il faut savoir que la municipalité a augmenté de 50% en un an la taxe de séjour portant sur les meublés de tourisme, ce qui lui rapporterait environ 3 millions d'euros à l'office de tourisme de Marseille. Donc c'est quand même une mesure. Enfin, je veux dire, les meublés de tourisme rapportent quand même de l'argent, sans parler de la manne financière que cela rapporte aux commerçants et aux restaurateurs, mais également à l'afflux de TVA que le tourisme permet à l'État de percevoir. Donc qu'il faille réguler les meublés de tourisme, c'est une réalité que nul ne conteste. Maintenant, faire de ces mesures un argument électoral, est-ce que c'est pas un sparadrap sur une jambe de bois, surtout quand on sait que Pascal Boulanger, le président de la FPI, a déclaré cette semaine, alors ça c'était assez dingue, hein, je sais pas si vous avez vu la phrase qu'il a prononcée, il a dit qu'il était au contact parfois de certains maires qui se disaient même heureux de refuser des permis de construire aux promoteurs, en disant que c'était un argument électoral vis-à-vis de leurs administrés que de refuser justement et de le faire savoir, quitte à payer justement une amende, parce que c'était un argument électoral quand on sait que certains administrés justement se plaignent notamment des chantiers qui peuvent avoir cours à côté de chez eux. Donc voilà, donc quand on est dans un contexte où effectivement certains maires s'enorgueillissent de ne pas construire et qu'il y en a d'autres qui mettent en place des mesures... Alors, même si on peut en discuter de la régulation des meublés de tourisme, mais en tout cas des mesures qui sont parfois un peu ridicules, notamment d'aller mettre des cadenas sur des boîtes. Enfin, je suis désolé, mais si ça, c'est des mesures qui sont concrètes et qui peuvent aider à traverser la crise du logement en France, je pense qu'on n'a peut-être pas tout à fait la même définition de ce qui va nous sortir de l'ornière.
C'est intéressant ce que vous dites, parce qu'on en parlera tout à l'heure avec le président Safar, justement, c'est justement de... Comment, à un moment donné, la question du logement est éminemment politique, hein, pour le dire, hein, pour l'assumer un jour. Je pense que tout est politique à ce niveau-là. Et comment, malheureusement, je dis bien malheureusement, effectivement, parce qu'il n'y a pas photo, hein, en 2026, il y a les élections municipales. Hein.
Ouais.
Donc ça commence un an avant. Donc là, ils anticipent hein, quand même beaucoup. On parlera d'autres sujets, justement, de maires qui, à l'inverse... Je prends par exemple le cas du maire de Saint-Dizier, par exemple, qui fait tout pour que le logement se redynamise. C'est comment, effectivement, essayer de faire en sorte qu'il y ait une ligne directrice du logement, parce que tout ça est fatal également. Aux Marseillais, on en parle.
Et surtout ne pas faire de contre-feu pour faire croire que l'on agit sur quelque chose, alors qu'au final...
Sauf à faire vous savez, une espèce de colcosisation à la soviétique et de planifier le logement en disant, voilà, c'est comme le prix du pain, ouais. Ça ne dépassera pas tant, mais vous indemnisez les propriétaires. Je ne vois pas comment on peut réguler les éléments. Merci d'avoir, dit cette information, parce que c'est un vrai sujet d'actualité. Bruno Monnier-Vinard, alors je vais vous dire les amis, c'est toujours un grand moment avec Bruno Monnier-Vinard parce que grâce à lui, on visite les coups de cœur architecturaux et ce partout dans le monde. Mon cher Bruno, vous voulez nous emmener dans une tour à Tokyo. On commence par Tokyo ou par la France?
Je vais vous emmener en deux tours. Là, j'ai choisi ces gratte-ciel en amont du salon MIPIM, hein, qui va se tenir bientôt à Cannes.
Du 11 mars au 14 mars au Palais des Festivals de Cannes.
Le salon de l'immobilier d'entreprise. Donc, on peut commencer par Paris. C'est l'ancien siège de l'Office national des forêts.
D'ailleurs, on va voir les images.
Qui est dans le 12e arrondissement. Et c'était un immeuble des années 70 d'architecture brutaliste. Il a été transformé. Réinventée par une architecte qui s'appelle Maud Kobe. Et elle a notamment couronné cette petite tour. Elle n'est pas très haute. Hein. Cette petite tour, elle a mis une charpente en bois qui est couronnée de verre, qui donne, vous voyez, une sorte de grand belvédère. Et ensuite, il y a un travail aussi au niveau du sol. Les parkings souterrains ont été réappropriés en bureaux et des jardins, etc. Voilà. C'est la première chose que je voulais montrer.
Magnifique.
Et comme quoi, on peut reconstruire la ville sur la ville.
Elle est située où? Elle est située où, juste pour
à côté de Nation.
À côté de Nation.
Voilà. La place de la Nation. Et puis sinon, on a une autre tour qui est aussi avec une architecture qui est assez spectaculaire. C'est à Tokyo. C'est près du jardin.
Voilà. On voit les petites images, les amis, mais voilà, vous êtes de l'autre côté de l'antenne, vous la verrez beaucoup plus sur notre application.
C'est près du jardin impérial de Shinjuku et du sanctuaire Meiji, pour ceux qui connaissent. Donc c'est une tour qui a été faite par le cabinet Oshino Architect et qui a la particularité d'avoir des façades qui sont tressées comme des paniers d'osier.
C'est l'impression que ça donne comme
des nids d'oiseaux. Et l'autre particularité de cet immeuble de grande hauteur, c'est qu'en fait, il change de silhouette en fonction de l'angle de vue de quel on le regarde. Voilà. Et puis au dernier étage de cette tour qui mesure 100 mètres de haut, il y a un grand rooftop végétalisé et on ne sait pas si les oiseaux viendront nicher sur le rooftop.
Pourquoi pas. Merci beaucoup, Bruno. Vous aviez d'autres...
Alors, c'est pas un coup de gueule, c'est un petit coup de blues. L'annonce du départ de M. Antoine Pélion. Vous savez qui est M. Antoine Pélion? C'est l'éminence verte du président Emmanuel Macron pour tout ce qui était transport, énergie... et pour mettre en place la neutralité carbone en 2030. Et c'est à lui qu'on doit d'ailleurs aussi le raidissement un peu sur la taxe carbone, vous savez, qui a donné les gilets jaunes.
Oui, bien sûr.
Voilà. Et donc, ce monsieur était secrétaire, était directeur du SGPE, c'est le Secrétariat Général à la Planification Écologique. Et il part, après trois ans d'occupation de son poste, il part. Alors, je voulais faire ce petit clin d'œil parce que, dans le point qui sort aujourd'hui, il y a un dossier immobilier de 40 pages qui est fortement axé sur ce que j'appellerais un peu l'écologie punitive et comment finalement parfois les bonnes idées peuvent être très paradoxales. Et,
Alors, on va montrer le, le point sorti qui est dans les bacs avec, vous l'avez pas loupé, voilà. Qui titre en couverture Donald Trump, l'homme de Moscou, Poutine et Trump, l'alliance des prédateurs.
Voilà, donc dans ce dossier, j'ai interviewé pas mal de professionnels et notamment, je me souviens de la présidente du site PAP, hein, Corinne Joly, qui me disait que c'était un peu du grand n'importe quoi ce calendrier du DPE, qu'aujourd'hui, pour atteindre les objectifs, on devrait rénover 1 million de logements par an, qu'on peut en faire grand maximum 200 000, qu'on n'a pas les bataillons, on n'a pas les professionnels.
On n'a pas les entreprises, on n'a pas les moyens.
Et puis on n'a surtout pas l'envie de beaucoup de bailleurs hein, et de propriétaires de changer ça.
C'est voilà. Très clair. Merci beaucoup Bruno Monnier-Vinard. Voilà le dossier du pont. On va en parler tout à l'heure parce que vous nous avez fait un truc hyper intéressant. C'est le bonheur à tous les étages. On en parlait tout à l'heure justement avec les prix par étage. Voilà, c'est parti pour le cœur de notre émission. C'est le grand débat avec le président Olivier Sapeur. C'est tout de suite après ça.
Le grand jury de la presse immobilière, le grand sujet.
Bonsoir Olivier Sapeur.
Bonsoir Sylvain.
Alors vous êtes d'abord un chef d'entreprise puisque vous êtes avec votre frère à la tête du groupe Sapeur Immobilier. Vous êtes l'un des plus gros syndics de copropriété sur Paris intramuros. Très impliqué en politique syndicale puisque très tôt vous êtes investi sur l'UNIS, hein, l'Union Nationale des Professionnels de l'Immobilier, pour en devenir le président de l'Île-de-France et du Grand Paris et également très immergé, très impliqué dans la politique sur les propriétés, notamment les propriétés dégradées. Vous êtes devenu ensuite, vous avez été élu mandat de président de l'association CALISR. Bref, vous êtes un homme de terrain, un homme d'action. On est très heureux de vous recevoir, les amis. Justement, on va faire un petit focus sur les copropriétés, à l'instar justement d'événements dramatiques qui se sont produits aussi à Paris, hein, bien évidemment. Mais alors, je ne vais pas revenir sur ce qui s'est passé rue d'Aubagne, mais on peut parler de ce qui s'est passé à Lille, mais plus largement dans certains pays où l'impact, dans certaines régions, pardon, où l'impact climatique, on le voit de plus en plus, a une incidence sur le bâti ancien. CALISR, qu'est-ce que c'est ?
Alors CALISR, c'est une association qui regroupe des professionnels de l'immobilier, qui sont les spécialistes de la prévention et de la redressement des copropriétés. Cette association, elle regroupe bien évidemment des syndics de copropriétés qui interviennent sur ces copropriétés en difficulté, dégradées ou fragiles, mais aussi bien évidemment tous les acteurs de ce monde, qu'ils soient des acteurs d'un côté d'associations de copropriétaires, on en a à notre conseil d'administration, mais aussi des intervenants en matière juridique, des professeurs de droit, mais en même temps tous nos opérateurs et collectivités territoriales. C'est-à-dire qu'au sein, effectivement, de notre association, nous avons l'USH qui représente les bailleurs, nous avons l'UNIS, bien évidemment, nous avons la FNAIM de l'autre côté, mais nous avons aussi, bien évidemment, l'ANA, qui est l'Agence Nationale de l'Habitat. Nous avons les opérateurs comme Solia, Urbanis ou Cité-Métrie, qui sont membres de l'association, et certaines collectivités territoriales qui interviennent sur ces copropriétés dégradées et sur cette situation parfois très difficile et très complexe à gérer.
Comment on peut définir aujourd'hui, justement, vous l'avez entendu tout à l'heure avec notre ami Régis, la situation des copropriétés en France, elle est complexe et elle est aussi préoccupante.
Elle est de plus en plus préoccupante.
Qu'est-ce qui se passe exactement en ce
moment ? Alors, vous avez deux difficultés. Une première difficulté, c'est que les bâtiments, pour certains, ont été construits dans les années 1800, 1900, pour certains au début. D'autres ont été construits après-guerre, bien évidemment, dans les années 50, 60, 70, 80. Et on se rend compte aujourd'hui qu'on a un vieillissement de ces immeubles-là au niveau technique, c'est-à-dire une obsolescence. C'est comme les humains, les bâtiments, ils vieillissent. Et bien évidemment, il il faut les entretenir, il faut en faire des travaux. Certains n'ont pas compris qu'en achetant dans certains immeubles, ben, les petits travaux de réparation, c'est une chose, mais à un moment où vous avez des gros travaux à mener, et ces gros travaux, c'est parfois de la rénovation globale, énergétique dans certains cas, mais c'est beaucoup de choses à faire en même temps. La deuxième difficulté, oui. et je tiens à le dire, c'est qu'on se retrouve aujourd'hui avec une paupérisation de certaines copropriétés. C'est-à-dire qu'on se rend compte que bah, les copropriétaires ont beaucoup de mal d'abord à payer les charges.
Paupérisation, ça veut dire qu'en fait, on a des copropriétaires dont le niveau de vie se dégrade.
Oui, ils se dégradent.
Donc ils arrivent à ne plus payer, par exemple, leurs charges de copropriété. Oui. C'est ça qu'on appelle une copropriété dégradée.
On a, alors pour certaines, oui, mais pour d'autres, c'est du bâti et l'immeuble risque de s'effondrer, comme ça s'est passé rue d'Aubagne. Mais c'est souvent, effectivement, des difficultés financières, des difficultés de gestion et de gouvernance. C'est-à-dire que dans certains cas, quand les copropriétés ont quelques difficultés, bah, les membres du conseil syndical sont encore moins vaillants et moins volontaires pour venir. Et donc vous allez avoir pratiquement quelques volontaires qui restent, les autres vont pas vouloir s'intégrer ou en tout cas s'investir. Et dans certains cas, ils vont dire, ben, on va vendre nos appartements et quitte à les vendre un peu moins cher, mais je quitte cette copropriété-là. Et donc ça, on se retrouve avec cette diminution et cette augmentation.
Est-ce que c'est possible de se retrouver sans syndic professionnel dans une... Parce qu'il n'y a plus, parce qu'il y a plus d'argent, parce qu'ils ne sont plus rémunérés, il n'y a plus rien. C'est
alors,
possible ça?
Oui, c'est possible. Vous pouvez très bien avoir un jour pas suffisamment de copropriétaires pour élire un syndic. C'est déjà arrivé dans certaines copropriétés. Je vous rappelle que nous avons des majorités pour faire élire le syndic. C'est la majorité de l'article 25 et la passerelle de 25.1. Mais j'ai des immeubles où ils viennent, ils sont 10, 12, 14% de présents. C'est rien du tout. Vous n'êtes même pas au tiers des copropriétaires présents, donc dans certains cas, ben, pas de syndic, et un administrateur judiciaire qui sera nommé par le premier qui va vouloir saisir le tribunal.
Alors je vous propose, pour alimenter le débat les amis, justement, qu'on continue sur cette trajectoire, sur la situation politique en ce début d'année, notamment avec un exécutif qui a quand même bien résisté à la motion de censure, hein, qui a été fatale au gouvernement Barnier. La bonne nouvelle, c'est que, quoi qu'on en dise, Valérie Létard semble être la ministre du Logement la mieux affûtée, la mieux connaissant ses dossiers, dans la limite, bien évidemment, des pouvoirs et de sa marge de manœuvre vis-à-vis de la comptabilité de Bercy, avec, pour bien alimenter l'idée, faire justement l'allusion à l'interpellation d'Anaïs Glemmer, il y a une dizaine de jours, à l'Assemblée nationale, sur les DPE dits frauduleux, ou les DPE de complaisance. La ministre du Logement a pris comme référence une étude réalisée par la société Careno sur une étude portant sur un certain nombre d'échantillons. Alors, nous, on a consulté cette étude. Elle a été mise en avant par le ministère du Logement et le Conseil national de l'Habitat, dont Anaïs Glemmer est la présidente, où il semblerait que les chiffres soient beaucoup plus élevés que les DPE, que le nombre de DPE qui avait été qualifié. 1 300 000 DPE sur 8 millions de DPE analysés seraient de complaisance. Alors, quand on dit des complaisances, ça veut dire, voilà, votre appartement, il est en étiquette G. En s'arrangeant avec le diagnostiqueur, il vous le rétrograde d'une classe pour pouvoir le vendre, par exemple, ou le vendre mieux. Quelqu'un veut prendre la parole, peut-être, parmi vous ? On commence par qui ? Anthony ?
Ouais. Non, mais ça pose surtout aussi la question de la réglementation du métier. C'est-à-dire que j'imagine que si des DPE de complaisance ont été donnés, c'est qu'il y a une réglementation du métier qui n'est pas assez claire pour l'instant, et que du coup, il y a un petit peu d'entre-soi pour essayer de faire en sorte que quelqu'un que l'on connaît fasse un diagnostic de performance énergétique qui permette tout juste de passer entre les gouttes, alors que concrètement
c'est vrai. C'est vrai, vous êtes d'accord?
Alors attention, on a eu plusieurs méthodes de calcul pour les DPE. Au départ, quand les DPE sont sortis, ils étaient encore basés sur l'ancienne méthode. Les associations de diagnostiqueurs et de professions immobilières, donc UNIS et FNAIM, ont dit attention, c'est pas les bonnes méthodes, vous ne prenez pas les bons calculs. Pourquoi ? Parce que quand on ne remplit pas, on ne donne pas une donnée parce qu'on n'a pas la donnée, automatiquement ça dégrade la note. Donc on est revenu vis-à-vis du ministère et de l'ADEME en leur disant attention, il faut modifier la méthode. La méthode est passée de Tetris à 3CL aujourd'hui. Le seul problème, c'est que cette méthode, elle n'est pas suffisamment qualifiante pour certains biens. L'exemple le plus simple, c'est votre studio au rez-de-chaussée ou au premier étage au-dessus de la porte de parking, ou le studio qui se trouve au dernier étage en façade nord, non isolée. Et on va se retrouver avec des calculs qui vont effectivement dégrader les notes de ces appartements, parce que plus l'appartement est petit, plus sa note va être dégradée. Si vous avez le même appartement qui fait 4 pièces au même étage, vous allez avoir une meilleure note. Pourquoi ? Parce que bien évidemment, il y a plus de mètres carrés et ça se répartit plus facilement. Donc on a cette première difficulté. Deuxième difficulté, c'est qu'il a fallu mettre en place avec le ministère du logement des règles pour les diagnostiqueurs. Pourquoi ? Parce qu'auparavant, vous vous installiez des diagnostiqueurs, vous aviez une formation très légère et très simple et vous arriviez effectivement à faire les documents. Aujourd'hui, le décret a été publié. Il oblige effectivement tous ces diagnostiqueurs à passer par des formations, par des compétences, par être reconnus et effectivement donner bien évidemment leur qualification préalablement à l'ADEME pour que leur diagnostic puisse être enregistré sur le site de l'ADEME. Donc on va vers le mieux. La seule chose, c'est qu'effectivement, on a toujours des anciens diagnostics qui sont là ou des anciens qui n'ont pas encore tous fait toutes les formations obligatoires.
Alors justement, Valérie Létard a répondu à Anaïs Lemeur, je vous cite, « Nous allons mettre en place une carte d'identité professionnel, d'accord, avec équipé d'un QR code, puisque en fait, quand vous faites un DPE, vous savez, vous le déposez sur, vous êtes obligé de le déposer sur le site de l'ADEME. Donc, imaginez le particulier qui va sur le site de l'ADEME pour vérifier que, par exemple, le diagnostiqueur, il est bien un jour, il est bien réellement diagnostiqueur, etc. C'est une galère. Voilà, ils le font pas. Alors là, l'idée, c'est de prendre son téléphone, de scanner le QR code pour voir effectivement si on peut avoir l'état professionnel du diagnostiqueur en question. Mais pas que. Il y a un projet d'horodatage et de géolocalisation associé au flash code. Donc en fait, quand vous flashez le code, vous avez l'horodatage qui vous permet de savoir combien de temps il a passé sur le DPE, et surtout la géolocalisation qui permet de savoir s'il s'est réellement déplacé. Parce qu'une chose que je ne savais pas, que j'ai appris, c'est qu'il y a des DPE qui se sont faits à distance, je ne sais pas si vous avez entendu parler, et surtout des DPE sur des surfaces en moyenne, sur un T2, il faut à peu près 1h30, hein, vous me dites si je dis une bêtise, qui se faisaient en 10 minutes. Donc là, il y a juste un petit souci quelque part, non ?
Alors, il ne mettait plus 10 minutes. Déjà, il fallait arriver sur le bien pour y aller. Donc, n'oublions pas.
Non, mais 10 minutes, c'est pas le terme. Les DPE qui sont tombés à 10.
Alors, il y a des DPE qui ont été faits très rapidement. Pourquoi ? Parce que dans certains diagnostiqueurs avaient déjà fait les appartements du dessus ou du dessous. Et quand ils sont arrivés dans l'appartement intermédiaire, c'est ce qu'ils m'ont dit. Hein. Je réponds très clairement. Quoi. Mais il y en a certains qui m'ont dit, mais j'ai déjà fait ceux du dessus, du dessous, je les connais, je connais déjà.
C'est du télédiagnostic.
C'est une réalité. C'est que de la traduction de la réalité.
Du télédiagnostic. Bon, ça. Eric Cala.
Oui, bah, c'est un. Enfin, c'est très complexe, hein, finalement, ce sujet de la DPE. On s'aperçoit que ça, c'est un peu le serpent qui se mord la queue. Enfin, on a du mal à s'en sortir. Et ça peut donner, effectivement, après des choses. Enfin, il y a des choses bizarres. Vous évoquiez tout à l'heure les immeubles dégradés, vous évoquiez la rue d'Aubagne. Mmh. Moi, j'ai un autre exemple dans la ville où j'habite. Il s'est passé, on a frôlé, j'allais dire, la catastrophe il y a deux, trois mois de ça.
Ah bon ?
Deux immeubles qui. Enfin, un immeuble qui a failli s'écrouler. Argenteuil.
Et qui était frappé de péril
Alors, ce sont les locataires qui ont commencé en se levant le matin. Ils ont vu le jour, en fait, à travers les murs. Donc, c'était à hauteur d'un doigt. Donc, ils sont affolés. Ils ont appelé la mairie qui a très, très bien réagi, honnêtement. La municipalité d'Argenteuil a très, très bien réagi, a fait évacuer cet immeuble et l'immeuble d'à côté, et également une maison qui était en dessous. Dans laquelle il y avait un risque que si l'immeuble s'écroulait, la maison
s'effondre.
Ouais. D'ailleurs, ça a été très compliqué parce que le propriétaire de la maison ne voulait pas partir. Enfin, voilà. Des experts sont passés après. Alors, je ne sais pas si c'est des experts des PU, je ne sais pas, je n'ai pas les tenants et les aboutissants.
Je pense pas, ouais.
Moi, je ne pense pas. Bah, toujours est-il qu'ils ont déterminé au bout de 3-4 jours, hein, donc les gens ont été relogés, etc. Il y a eu beaucoup de. Vous parliez de paupérisation tout à l'heure. Enfin, voilà. Au niveau des locataires, c'était un peu ça aussi. Ces immeubles-là n'étaient pas dans un état fabuleux. Les experts ont décidé que finalement, non, ils pouvaient tenir. Donc, tout le monde est rentré chez soi.
Ah bon?
Oui, alors, que déduire de ça ?
Ah oui,
voilà, donc alors, il y a la municipalité a pris ses responsabilités, les choses ont été faites, mais le risque existe toujours, a priori, quand on a quand même. Je ne sais pas ce que vous en pensez, Olivier Safar.
Est-ce que les mairies
Donc voilà, la difficulté, elle est là aussi.
Engagent leurs responsabilités lorsque, par exemple, un immeuble qui aurait dû être classé péril ou peut-être soumis peut-être à une dégradation à cause d'un mauvais entretien, est-ce qu'elle est responsable de ça?
Alors, si elle a l'information, la réponse est oui. Mais dans certains cas, la mairie n'a pas l'information. C'est-à-dire, vous avez certains immeubles qui appartiennent à certains bailleurs sociaux. Eux sont dans l'obligation de faire l'analyse de leur bâtiment et de transmettre quand il y a une difficulté. Vous avez certains propriétaires d'immeubles qui sont effectivement, pour certains des particuliers, des SCI ou autres, eux, ils n'ont aucune obligation là-dessus. Mais le rôle de la mairie, c'est d'aller vérifier ces immeubles, d'aller regarder. Vous savez que dans certaines mairies, ils ont un observatoire de ces immeubles, justement, pour éviter ce qui s'est passé à Marseille, rue d'Aubagne, avec l'effondrement. Et on a certaines communes qui vont pouvoir intervenir. Il y a un décret qui est en cours de préparation, justement, sur ces parties d'obsolescence d'immeubles et de problèmes de structure, qui serait normalement publié dans le mois qui suit pour permettre, justement, aux collectivités territoriales de pouvoir intervenir et, en tout cas, de demander au moins un diagnostic sur ces immeubles-là.
Un avis, peut-être, Guillaume ?
Un avis, un prolongement, une question, mais j'ai envie de mettre à la place des conseils syndicaux qui sont à la place de, qui sont les premiers à aider, à gérer leur copropriété, à être en relation avec les syndics. Alors, il y a de plus en plus de copropriétés dégradées. D'ailleurs, quels sont les chiffres que vous avez, vous me les direz?
Je ne vais pas donner des chiffres parce que pour certains...
Et j'ai envie de, de mettre à leur place et de leur donner des conseils et d'avoir des conseils de votre part. C'est-à-dire que quels sont les premiers signaux qui font qu'on se retrouve dans une situation qui va aller de mal en pis et où on va, une copropriété risque
de basculer? C'est une excellente question.
C'est une très bonne question. Alors, certains nous disent le seul signal, c'est un signal financier. C'est pas vrai. Vous avez d'abord le signal financier, c'est trois choses. C'est un... une augmentation importante des charges. C'est-à-dire, vous avez un budget normalement de 50 000 euros et vous vous retrouvez depuis 3 ou 4 ans avec un budget de 65 000 ou de 70 000 euros. Somme importante, et je vous rappelle que c'est ce qui est arrivé avec nos problèmes d'énergie. Quand on a eu l'augmentation des prix du gaz, la plupart du temps du fuel ou de l'électricité, on s'est retrouvé avec certains immeubles avec des augmentations substantielles de coûts de l'énergie pour la partie chauffage et eau chaude.
Oui, on s'en souvient après le Covid, effectivement.
Je m'en souviens. Je me suis fait secouer sur certains immeubles en disant mais on ne comprend pas, on est tous à jour.
Ils ont dit que c'était vous, effectivement, mais on peut comprendre, ils se trompaient. Mais que c'était les syndics professionnels qui avaient
mal géré les choses et qui n'avaient pas...
C'est pas le cas.
Mais c'était pas le cas. On avait des budgets qui étaient effectivement calculés sur les montants précédents, on avait fait les appels, les copropriétaires avaient payé, il n'y avait pas de difficulté. L'augmentation a quand même été assez rapide et franche. Deuxième difficulté, c'est le montant des impayés. Vous vous retrouvez avec un nombre d'impayés très important, vous passez globalement, pour certains, ils vous disent vous dépassez 8, 10, 15%, quand vous êtes à 30 ou 45% d'impayés, c'est une vraie difficulté. Mais le troisième point qu'il faut regarder, c'est le problème de gouvernance. Parce qu'au bout d'un moment, vous avez certains immeubles qui se disent, c'est la faute du syndic, on change de syndic. Et ils vont changer de syndic tous les ans ou tous les deux ans. Et vous allez vous rendre
compte que le conseil syndical n'est pas opérant.
Parce que le conseil syndical n'a pas peut-être pris conscience des différents problèmes, ne travaille peut-être pas de concert avec le syndic. Mais derrière, on va se retrouver non plus avec un changement de syndic tous les un ou deux ans, mais avec un changement de membre du conseil syndical, parce que certains se sont rendus compte de la difficulté et ils démissionnent. Ils s'en vont. Donc ça, c'est un autre point. Et puis le troisième point qu'il faut regarder, c'est quand le syndic vous propose de faire des travaux dans l'immeuble parce qu'il faut les faire, parce qu'il y a besoin de le faire, et que l'Assemblée Générale refuse les travaux. Une année, deux années, trois années. Là, vous avez une vraie difficulté et vous allez rajouter toute une partie, effectivement, d'intervention en urgence pour les fuites d'eau, pour les problèmes de structure, pour des problèmes d'immeuble, bien évidemment, parce que l'immeuble, ça s'entretient, mais ça se répare et ça se remet en état. C'est comme un être humain. Au bout d'un moment, on refait des petites choses, mais au bout d'un moment, on refait un gros ravalement, on refait une grosse rénovation, on remet un peu de structure dans l'immeuble. C'est la réalité. Mais il faut pouvoir le prévoir, l'organiser et surtout l'accepter pour certains copropriétaires.
Est-ce que ça répond à votre question ?
Ça répond à ma question, mais qu'est-ce qu'on peut y faire alors si on refuse chaque année les travaux ?
Alors, c'est pas de refuser, c'est d'organiser les choses. Ouais. Ça se gère, ça s'explique aux copropriétaires d'abord, et puis surtout, c'est un point important, ça se prévoit sur du long terme. C'est le rôle du plan pluriannuel de travaux qui a été mis en place par la loi, et qui permet justement d'imaginer les travaux sur les 10 prochaines années. Travaux à réaliser pour l'immeuble, mais qui vont aussi améliorer la partie énergétique de l'immeuble.
puis il y a des aides.
Avec l'économie d'énergie et des choses comme
c'est obligatoire, ça.
Et là, c'est obligatoire.
Oui, oui. Il y a des aides.
Et quand on va faire ce type de travaux, il y a des aides qui vont permettre de le faire, que ce soit MaPrimeRénov' CoPro, mais aussi d'autres aides comme les C2E.
Les C2E, les certificats d'économie d'énergie.
Et d'autres aides, même individuelles, pour des copropriétaires ménages modestes ou très modestes qui auront le droit à des aides complémentaires. Et en plus, quand vous êtes dans une copropriété fragile ou en difficulté ou en plan de sauvegarde, vous allez pratiquement doubler certaines aides parce que vous êtes en plan de sauvegarde de copropriété.
Il y a des plans de sauvegarde sur les copropriétés, c'est intéressant.
Il y en a beaucoup.
Anthony.
Non, j'avais une question parce que je connais des gens qui sont dans cette situation et le problème quand on a une copropriété dégradée avec un immeuble par exemple qui menace, enfin clairement on voit des immeubles des fois qui tanguent les escaliers quand on monte, on a l'impression que l'immeuble il s'écroule, enfin voilà qu'il est,
il bouge
et que ça va absolument pas. Le problème c'est que notamment pour des gens qui sont pas forcément propriétaires mais qui louent à l'intérieur, dans des villes par exemple où il y a une saturation du marché de la location. Ça veut dire faire sortir les gens des immeubles, ça veut dire les reloger temporairement sur des surfaces à peu près équivalentes avec des loyers qui le sont également. Dans des villes qui sont déjà en saturation et à flux tendu, c'est quasiment impossible, ce qui fait qu'on retarde la sortie des gens de cet immeuble et on retarde d'autant plus justement le début des travaux pour tout simplement faire en sorte que l'immeuble il soit... Là, on ne parle même pas de rénovation énergique, on parle juste que l'immeuble tienne debout, en fait.
Absolument.
Il ne menace pas de tomber du jour au lendemain. Donc, moi, je sais, je connais des gens qui, on sait que l'immeuble va mal. On espère que ça va tenir, mais malheureusement, ça fait plusieurs mois. Et tant qu'il n'y a pas de solution de relogement de façon temporaire ailleurs, les travaux ne peuvent pas démarrer.
Est-ce que la mairie peut intervenir? La réponse oui, ou la collectivité territoriale.
Vous pouvez intervenir en plus.
Alors, sachez que dans la loi Habitat dégradé qui a été votée le 9 avril dernier, 2024, il y a la création d'un syndic d'intérêt collectif, d'un nouveau type de syndic. Il faut en parler. C'est un syndic qui va pouvoir intervenir sur ces copropriétés fragiles, dégradées ou en difficulté pour pouvoir justement mettre en place un plan sur du moyen ou du long terme pour sortir la copropriété de ses difficultés. Donc ça nécessite effectivement des compétences spécifiques, des compétences particulières. Là, on va avoir un autre décret, bien évidemment, sur les formations obligatoires et de ces syndics d'intérêt collectif, parce qu'il ne suffira pas d'être syndic et d'avoir les qualifications. Il faudra avoir des compétences complémentaires avec des formations complémentaires sur ce métier-là, qui est un métier de gestion de copropriété peut-être plus difficile, plus compliqué, mais qui nécessite effectivement des compétences et clairement plus de temps à passer dans ces immeubles. Donc des syndics qui vont devoir effectivement être investis de cette mission.
Bruno Monibina.
Alors, question de Béotien. J'ai envie d'acheter un appartement. Mais je ne sais pas si quelle est la proportion de locataires, de propriétaires bailleurs et de propriétaires occupants au sein des mêmes immeubles. Est-ce que j'ai plus d'intérêt à prendre un immeuble où il y a davantage de propriétaires bailleurs? Et est-ce que la location touristique de courte durée est une aubaine pour les copropriétés ou alors une punition?
Alors je vais répondre déjà à la dernière question. Est-ce que c'est une aubaine ou une punition? Pour certains immeubles, c'est une punition. Pourquoi? Parce que vous allez vous retrouver à certains endroits avec du passage de certaines personnes qui ne connaissent pas le principe de l'immeuble parisien, qui peuvent venir de l'étranger, qui vont chercher la clé de l'appartement, qui vont pas trouver la boîte à clé qui se trouve ou dans la boîte aux lettres ou collée à un endroit ou accrochée sur la grille du jardin qui est au coin de la rue ou du square. Ça, c'est une première chose. Deuxième chose, ils vont arriver à monter dans l'ascenseur où il y a que deux places avec chacun une valise en plus et bloquer l'ascenseur, on a eu plein de choses dans ces immeubles-là. C'est de la réalité, je ne vais pas vous dire autre chose.
Parce qu'on a tous... Je sais pas si
on entend beaucoup de propriétaires, de locataires qui s'en vendent de certains immeubles parce qu'il y a trop de passages et trop de valises qui roulent dans les
Et il y a d'autres cas où, au contraire, c'est une bonne chose.
Ça sent le vécu.
Parce que, c'est une bonne chose parce que dans certains immeubles, vous allez avoir effectivement des propriétaires bailleurs qui vont être contents parce que ce sont pour eux des locaux commerciaux qu'ils ont transformés dans ce sens-là. Ils ont organisé les choses, les occupants qui vont venir dans ces logements vont être contents parce que c'est organisé, c'est fléché, c'est fait comme il faut. Donc on va se retrouver avec les deux cas en même temps, mais je ne vous cache pas qu'à un moment, il faut pouvoir aussi gérer toute la partie hôtelière. certaines communes en région, notamment toutes les communes de stations thermales, ont des problèmes parce qu'il n'y a pas suffisamment d'hôtels et ils ont besoin de ce type de Airbnb pour pouvoir effectivement accueillir tous les gens qui vont venir passer une semaine en cure thermale. Et c'est quand même un point à organiser et à gérer en fonction des endroits et des villes.
Alors, et la première question, oui, sur la proportion locataire-propriétaire.
Alors justement, on peut le savoir, ça?
Alors ça, je ne le sais pas, moi.
Non.
Parce que quand je suis syndic de l'immeuble, je n'ai aucune idée là-dessus. Et quand je mets agent immobilier une annonce pour vendre un appartement, je ne vais pas donner cette information parce que je ne la connais pas.
Mais est-ce que de manière générale, un propriétaire bailleur va faire autant de travaux qu'un propriétaire occupant ou
Alors je vais répondre. Aujourd'hui, on a une dichotomie. Vous savez qu'auparavant, on avait des copropriétés. C'était les propriétaires occupants qui voulaient faire des travaux et les bailleurs qui ne voulaient pas faire les travaux parce que ça venait diminuer leur montant de loyer, leur revenu.
Bien sûr.
Aujourd'hui, c'est l'inverse.
Mais oui.
C'est l'inverse. Pourquoi ?
Parce qu'on oblige les propriétaires bailleurs à le faire.
Pour certains, ils sont en G ou en F, et ils voudraient que effectivement, oui, les travaux soient faits rapidement pour pouvoir effectivement se retrouver dans, d'accord, la possibilité de louer l'appartement ou de ne plus être bloqué au niveau du loyer et de pouvoir effectivement le réajuster. Donc on a cette dichotomie aujourd'hui, et ça c'est une difficulté. Je suis d'accord avec vous quand vous avez dit que le DPE est mal fichu et qu'il n'est pas tout à fait adapté à nos immeubles, il n'y a aucun doute là-dessus. Il y a eu une première proposition de loi qui avait été déposée il y a quelques semaines pour effectivement modifier les choses dans le cas où il y ait des travaux votés en copropriété ou le plan pluriannuel voté pour intervenir et permettre de relouer les bâtiments en G en attendant. Elle a été rejetée la dernière fois. Là, vous avez une nouvelle proposition de loi qui vient pas non de l'Assemblée nationale mais du Sénat par la sénatrice Amel Gacquer qui doit la déposer la semaine prochaine pour justement permettre de faciliter effectivement la remise sur le marché de ces appartements en G dans des copropriétés dans lesquelles les travaux ont été votés, engagés ou en tout cas préparés pour que justement on améliore les choses sur un court ou moyen terme, en moyenne 3 ou 5 ans, pour pouvoir avancer là-dessus.
Alors, qu'est-ce qui se passe en attendant juste
oui, parce que là, aujourd'hui, Angers...
Angers, il continue d'être loué, là.
Angers, aujourd'hui, mais, normalement, depuis absolument, le 1er janvier, il n'y a plus rien. Vous n'avez plus le droit de les louer.
Oui, non, mais oui, la réalité, c'est quoi?
La réalité, c'est que vous avez... Voilà. Alors, au niveau des professionnels de l'immobilier, nous, on ne peut plus les mettre sur le marché. Que les choses soient très claires vis-à-vis des propriétaires...
Alors, on va être très prosaïque. Est-ce que vous avez dénoncé des mandats de gestion?
Alors, dénoncer,
objectivement.
Objectivement, on en a dénoncé 2 ou 3, mais pas beaucoup. En revanche, on a accompagné les propriétaires
qui
avaient des appartements en G
mais Olivier,
à organiser
Olivier
les travaux pour certains
Olivier,
cas, pour gagner une lettre.
Non mais Olivier Sapard, très précisément, vous avez très peu dénoncé de mandat de gestion parce que vous avez déjà fait le job pour que les propriétaires qui vous confiaient leur appartement à gérer fassent les travaux. On est bien d'accord?
Oui.
C'est le cas de tous vos confrères?
Non. C'est pas le cas de tous nos confrères, mais c'est surtout pas le cas de certains propriétaires qui n'ont pas les moyens, parce que la difficulté, c'est de trouver le financement.
Mais qu'est-ce qu'ils font, les confrères?
Je ne cible pas
les ADB.
J'ai certains confrères qui vont vendre les appartements qui sont en G. Et aujourd'hui, vous allez avoir un acquéreur qui va acheter. L'appartement, il est en G. Il veut faire les travaux, il les fera. Il veut pas les faire, il les fera pas.
Bonne question.
Attention, difficulté aujourd'hui. Les banques demandent maintenant le DPE.
Ok, bonne question.
Et là, ils vont vous dire, vous achetez Angers et vous devez faire les travaux.
Bonne question, je profite de la présence de Régis. Est-ce qu'on observe un mouvement de vente plus accru depuis le 1er janvier 2025 sur les étiquettes G? Est-ce que vous l'observez ou pas? Je vous ai déjà posé la question le mois dernier.
Les annonces en G ont été mises en vente bien avant le 1er janvier 2025. Donc le marché s'est fait déjà depuis 2021-2022.
Donc on est bien d'accord que ceux qui avaient des appartements en étiquette G, on savait qu'ils allaient être frappés par l'interdiction et ont mis en vente, clairement.
Ah oui, assez d'accord, rapidement. Oui.
Alors, n'oubliez pas une chose. À un moment, on a refait les DPE. Je vous rappelle que quand on est passé d'une méthode à l'autre, on a eu le droit, effectivement, de redemander le DPE sans avoir à payer quoi que ce soit, pour être sûr qu'avec la nouvelle méthode et nouveau décret qui est passé pour les superficies de moins de 30, je crois, ou 35 mètres carrés, qu'il y ait un changement d'étiquette ou pas. Ça a été fait.
Alors,
ça n'a pas beaucoup changé.
On va accélérer.
C'est pas que le DPE, mais ça n'a pas aidé.
Oui.
Mais c'est pas neutre que dit M. Sapard, parce qu'il y a quand même eu 140 000 logements qui sont sortis du statut d'indécence passoire énergétique, parce qu'il y a eu tout d'un coup un changement. Il y a aussi ce yo-yo législatif qui est très important. Et ça n'incite pas à faire des travaux.
Ça n'incite pas.
Et d'ailleurs, ça pose question de voir un volume aussi élevé. Est-ce que c'est la réalité ou pas?
Oui, parce que qui va faire les contrôles derrière? Parce que c'est facile. Moi,
Est-ce que vous avez vu 140 000 unités du jour au lendemain qui...
Voilà. Bah, oui. Enfin...
Non, mais vous, alors, vous comprenez que ça jette...
Alors, ça jette une vraie difficulté. Non,
mais
et
ça jette
peur.
Surtout la suspicion. Et là, on comprend la réaction d'Anaï Glemmer qui a interpellé Valérie Létard et la réponse et la riposte très musclée du gouvernement sur la question. Vous devez être l'allié objectif des mesures gouvernementales à ce titre-là.
Alors, nous, on est favorable à l'amélioration de l'immeuble, à l'amélioration énergétique, bien évidemment, mais pour le confort de tous, qu'ils soient copropriétaires ou locataires, tant d'été que d'hiver. Mais la réponse, elle est très claire aujourd'hui. C'est qu'à un moment, il faut financer. Et financer, c'est une difficulté aujourd'hui pour les travaux à réaliser. Mais deuxième chose, bien évidemment, c'est pas que le financement. Il faut trouver des entreprises pour le faire. Je vous cache pas qu'on a le droit, dans certains cas, à des subventions et à des aides. Mais pour pouvoir avoir les subventions et les aides, il faut que les entreprises soient RGE, reconnues garantes par l'environnement. Et aujourd'hui, on a eu une diminution importante de ces entreprises, parce que comme elles travaillaient plus aux crises immobilières,
il y en a, y en a quasiment 10 000 de moins.
Elles ont 10 000, diminué.
Voilà, 10 000 de moins par rapport
parfois
à l'année dernière.
Plus cher.
Oui, alors on a des propriétaires fantômes, des propriétaires qui sont démotivés. On a des propriétaires fauchés, mais alors littéralement fauchés. Ils n'ont plus un rond. Charges de copro qui ont explosé, les coûts de l'énergie. Je voudrais qu'on conclue la dernière partie de l'émission avant de nous quitter sur les principes politiques. Nous avons dit tout à l'heure, je ne sais pas si vous partagez la même analyse que moi, les amis. Moi, je pense que dans le logement, la politique de l'urbanisme et du logement, de l'aménagement et de l'immobilier, c'est que politique, ce n'est que politique et que décision politique. Moi, j'ai envie de vous poser la question. On a vu que Valérie Létard s'était emparée de plusieurs sujets, notamment deux, effectivement, la rénovation énergétique, où on a l'impression que ça se muscle vraiment en termes d'organisation, et deux, une commission est en train d'être constituée par l'incontournable Buzicazo qui est toujours dans les couloirs et qui bosse avec l'ancien député Michael Nogal qui semblerait est maintenant conseiller du ministre de l'économie. Comme quoi finalement c'est un phénix, Michael Nogal, c'est extraordinaire. Voilà. Cette commission a pour but d'étudier le statut du bailleur privé. Autrement dit, de sanctuariser ce qu'on appelle l'amortissement qui permettrait de redonner du pouvoir d'achat, je simplifie un peu, aux propriétaires pour leur permettre d'avoir un peu de souffle, mais surtout de redonner confiance dans la propriété immobilière. Je voudrais qu'on finisse cette séquence sur le politique. Est-ce qu'aujourd'hui, ça vaut toujours la peine, on peut se poser la question, d'être propriétaire dans ce pays?
Alors moi, je réponds oui, parce que sur le long terme, vous allez retrouver effectivement...
Non, mais vous êtes professionnel de l'immobilier, vous pouvez
parce
pas
que
dire non.
C'est mon job. Mais la réponse aujourd'hui, c'est que effectivement, nos propriétaires ont peur d'abord d'investir dans des appartements, parce qu'ils se retrouvent avec des obligations de rénovation énergétique, des difficultés de financement, bien évidemment, difficultés parce que c'est pas de crédit pour ces sommes-là. Et là, ils se retrouvent vraiment en grande difficulté. Soit c'est un crédit à la consommation avec un taux à 8-9%, soit c'est un crédit immobilier. Mais pour faire 20 ou 25 000 euros de travaux de rénovation énergétique dans votre logement quand c'est un studio, c'est pas un crédit immobilier. C'est obligatoirement un crédit conso qui coûte très cher.
Et donc, sachant que les banques commencent à s'y mettre, mais elles sont pas si nombreuses que cela.
Vous avez aujourd'hui deux banques qui interviennent. Il doit y en avoir deux autres qui vont venir sur le marché. Je les attends. C'est un point important.
Alors, on a des personnes qui sont âgées, qui se disent ça vaut plus la peine, vu l'âge que j'ai, de faire les travaux de copropriété. D'autres qui se disent, effectivement, j'amortirai sur une trop longue période les biens, que déjà, la rentabilité, elle a été largement obérée. Je parle des petits propriétaires bailleurs qui aujourd'hui logent la majorité des Français, il faut quand même le rappeler, avec des taux de rendement qui sont aujourd'hui quasiment négatifs. Bon, ça n'a plus d'intérêt, effectivement, d'investir dans la pierre à cause de l'inflation normative et le matraquage fiscal qu'ils ont subi depuis maintenant quelques années, en tout cas déjà depuis la première année du mandat d'Emmanuel Macron.
Alors, une chose est claire. Aujourd'hui, le statut du propriétaire bailleur est étudié par les ministères. C'était une demande que nous avions formulée à UNIS il y a déjà 6 ans ou 7 ans.
Est-ce que c'est une première, là, ce qui est en train de se passer, de constituer
C'est la première fois que Bercy se saisit du sujet.
D'accord.
Je dis les choses, Bercy, parce que notre difficulté n'était pas le ministère du Logement avec les différents ministres, qui était plutôt partant pour faciliter les choses, et notamment quand on avait besoin de construire, parce que ça fait quand même 2-3 ans que la construction elle est à l'arrêt, on se dit, si on crée un statut du bailleur privé, on va pouvoir effectivement reconstruire pour pouvoir vendre à ces propriétaires qui vont mettre sur le marché des biens en location. Positif, on est dans le bon sens. La seule chose, c'est que Bercy, derrière, bloqué avec tous les mécanismes d'incitation fiscale qui sont à mettre en œuvre pour ces cadres-là. Et ça, ils ne comprennent pas l'intérêt. Ils ne voient que le court terme de la dépense en disant je gagne moins en intérêt, mais ils ne voient pas le développement de l'activité de construction, le développement de l'achat, le développement ensuite de la location. Donc tout ceci fait effectivement des revenus sur X années. Réaction... Et je pense qu'à un moment, il ne faut pas simplement regarder l'année en cours.
Réaction de nos confrères de la presse.
Mais... Je ne sais pas si tu es au courant, sur les seuils carbone là, dans la construction neuve, par exemple, il y a des nouvelles exigences en 2020. Je ne connais plus les dates, mais dans les années qui viennent, il y a des nouveaux seuils par rapport à la norme environnementale.
La RE20 et la
RE28.
Voilà, exactement.
Qui imposent des seuils de carbone plus drastiques pour toute construction neuve. Tout d'un coup, on s'aperçoit qu'il y a rétropédalage sur les maisons neuves et sur les résidences étudiantes. Voilà, on sait, bon, parce que c'est le principe de réalité. Parce qu'on se rend compte qu'à force de mettre des couches, on est en train de casser une économie, etc. Et moi, ça me fait penser ça pour le DPE. Pour moi, c'est exactement, c'est un petit peu cette même valse hésitation. Et puis, un coup en avant, deux coups en arrière. C'est ce que je dis moi dans ce dossier immobilier où je prends position, c'est je dis que d'une idée vertueuse, ne pas consommer de terres agricoles, ne pas essayer d'éradiquer les passoires, les grippins ou les glacières, ça part du bon sentiment, je pense que tout le monde est d'accord, mais après c'est fait d'une façon telle et dans l'urgence que on se retrouve avec des effets un peu contre-productifs. Vous savez, Sylvain, quelle est la particularité des taupes, l'animal des taupes, la taupe.
C'est de faire des trous.
Non, mais sinon, elle a une autre particularité, non ?
Elle voit rien. Elle est aveugle.
Voilà, tout à fait. Mais il faut savoir que la taupe, lorsqu'elle naît, elle voit. Mais en fait, c'est à force de vivre sous terre qu'elle devient aveugle. Et je pense que on est en train un peu d'être dans cet aveuglement avec l'écologie qui finalement, au bout du compte, va empêcher des gens d'accéder au logement.
Voilà. Quand la taupe n'est pas une couleur,
c'est les fables de la Fontaine.
Alors, simplement vous dire une chose. Nous, on avait soulevé les difficultés de mise en œuvre de toute la partie rénovation énergétique. On leur avait dit, vous vous trompez de faire ça trop vite. Alors, en matière immobilière, la durée n'est pas la même que sur les parties des gouvernements. On leur a dit, en principe, normalement, vous auriez dû faire une loi de programmation sur 10 ans pour arriver à faire les choses au fur et à mesure et pas simplement dire, ben voilà, 2025, c'est léger, 2028, 2032. C'est pas assez long. On était en retard, aucun doute là-dessus. Il fallait le faire, il n'y a pas de doute. La seule chose, c'est qu'en France, le temps de l'immobilier, c'est un temps de 10 à 20 ans. Et il faut le comprendre, il faut l'assimiler. Et quand on achète un appartement, ce n'est pas pour le revendre le lendemain. C'est la plupart du temps nos propriétaires bailleurs qui achètent des appartements pour avoir des revenus, pour avoir au départ un crédit, ils le financent, et qu'arrivés à leur retraite, bah, ils aient un revenu complémentaire pour beaucoup. Et ça, effectivement, ça ne rentre pas toujours dans la tête de nos gouvernants.
C'est un vrai sujet parce que on voit bien presque les limites des politiques publiques. Est-ce qu'il n'y aurait pas, parce que je voudrais avoir votre avis là-dessus, puisque à force de faire les villes de France, je me rends compte qu'en réalité, c'est vraiment les maires qui ont la main, quoi. Il suffirait que, d'un point de vue décentralisation, il y ait soit une délégation, soit peut-être plus de pouvoir ou plus de renforcement, mais on se rend compte que là où ça fonctionne le mieux, c'est quand les maires s'en emparent. Au niveau immobilier. Est-ce que vous partagez la
même idée ? Les maires.
Non, mais justement, non, c'est intéressant comme débat, pas tous les maires, oui.
Quand tu interroges des promoteurs et puis qu'ils se retrouvent confrontés avec des chartes
municipales... Le micro, mon cher Bruno.
Des chartes municipales qui vont être plus exigeantes encore, c'est pas toujours...
Oui, oui. Alors, n'oubliez pas une chose. On a certains maires qui ont mis en place le fameux ZAN, le zéro artificialisation nette, en avance. Et qui ont dit...
Je crois que c'est un bon réglisse, moi.
C'était du réglisse à l'époque. Là, aujourd'hui, c'est moins agréable. Ouais, et on clair. Se retrouve avec certains maires qui ont décidé plus rien. Et la difficulté, c'est que c'était prévu sur du moyen terme et que certains s'en sont emparés peut-être un peu trop rapidement et n'ont pas compris que de l'autre côté, ils bloquaient les choses
Alors, rapidement, parce qu'on va devoir conclure. Anthony, vous voulez intervenir.
Non, moi, je voulais interroger. Alors, je sais que ça peut paraître complètement délirant de dire ça, mais est-ce qu'on peut pas s'interroger aussi sur la taxe foncière ? Enfin, je ne sais pas si vous avez vu là, ce qui s'est passé aux États-Unis, où il y a le gouverneur de la Floride, Ron DeSantis, je crois, sans écorcher son nom, qui a fait une proposition. Alors, aux États-Unis, c'est un peu différent, parce qu'après, c'est par État, donc la Floride peut très bien adopter cette mesure sans forcément que les autres États... prennent le même dispositif, mais en fait lui a considéré qu'à partir du moment où on était propriétaire des murs de sa maison, continuait en fait de payer. En fait, c'est comme si on était comme si on louait une terre, c'est-à-dire qu'on ne loue pas les murs, mais on continue de payer une rente à l'État pour louer entre guillemets le lopin de terre sur lequel on a construit une maison.
C'est du BRS quoi. C'est du démembrement qui dit pas son nom. Quoi.
Je sais pas ce que ça vaut. Enfin, lui considère que c'est aberrant de demander à ce que les gens continuent de payer une taxe foncière. Dans un pays comme la France où on a un déficit budgétaire aussi catastrophique, j'imagine que
non, mais c'est sûr que la
on
taxe
est très loin d'une mesure telle que celle-ci. Quand on voit que non seulement la taxe foncière continue d'exister, mais qu'en plus de ça, elle augmente. On peut aussi se poser la question.
Oui, mais elle augmente aussi parce qu'il y a eu une baisse des dotations. Faut quand même être du côté des maires. Les maires ont vu fondre leurs dotations et les compensations qui ont été faites sur la taxe d'habitation. On peut pas dire qu'elles aient réellement été faites à l'euro près, comme ça avait été promis par Emmanuel Macron, et qui a vraiment
Mais là, je vais prendre peut-être la défense des propriétaires, mais dans ce cas, pourquoi...
Pourquoi ce serait les propriétaires
Pourquoi les propriétaires verraient leur taxe foncière augmenter quand la taxe d'habitation, justement pour ceux qui
a disparu, quasiment
éradiquée pour les communes. Alors c'est très bien pour ceux qui louent, mais en même temps pour ceux qui sont propriétaires.
Taxe foncière à Paris, plus 52% en 2022. Et là, Paris a été le premier département à relever le seuil de 4,5% à 5% sur les droits de mutation.
Absolument.
Donc, on a pas du prix déjà.
Oui, rapidement, vous voulez vous exprimer sur cette question ?
Non, simplement rappeler une chose. Quand on essaie de trouver des solutions, à un moment, on essaie de déshabiller l'un pour habiller l'autre. En réalité, ce n'était pas le cas. Ça a été déshabillé en totalité. Et le but du jeu, quand on est sur de l'immobilier, ce n'est pas de penser au court terme. On avait auparavant la DATAR. Alors, pour ceux qui l'ont connue de l'époque, c'était la partie aménagement du territoire et pour partie construction et urbanisme dans le logement. Aujourd'hui, on a un manque de cette vision d'urbanisation, de cette vision de construction, de cette vision d'aménagement des territoires, tant pour les entreprises que pour le logement. Et c'est effectivement un vrai manque en France de cette organisation sur du long terme.
Mais pourtant, il existe toujours le commissariat au plan.
Excusez-moi, notre ancien haut commissaire au plan est devenu premier ministre, je vous rappelle.
Oui.
Donc nous n'avons plus personne aujourd'hui.
Le poste est vacant.
Merci beaucoup. On aimerait encore parler plus, notamment du désespoir des professionnels immobiliers sur certains sujets, notamment sur le fait qu'ils ne sont pas toujours très aidés sur le plan fiscal, notamment. La difficulté aussi pour les personnes qui sont, vous savez, payées à la commission, les mandataires, les agents commerciaux pour qui bossent. Effectivement, je rappelle un livre qui avait été publié, qui s'appelle « La précarité en col blanc », qui montrait qu'il y a une grande désespérance dans l'immobilier, avec des niveaux de revenus qui sont quand même assez faibles. Moi, j'aimerais dire, et ça, c'est un coup de gueule que j'aimerais bien poser, qu'il faudrait qu'on arrête un peu de faire rêver les gens sur des illusions, et que l'immobilier, c'est un vrai et beau métier, qu'il faut apprendre, qu'il faut savoir justement rémunérer, et qu'il était temps que ça s'organise. Je pense que vous partagez le même
point. Ça, c'est une réalité. Nous sommes, nous, au service de nos clients, mais pour les accompagner sur du long terme.
On est d'accord.
L'immobilier, c'est pas un one shot. Vous avez l'impression de voir votre agent immobilier une seule fois qui vous vend l'appartement, mais il est là. Il s'occupe de vous, il s'occupe de tous les immeubles.
On est d'accord. Aussi, dans la dernière info que je voulais donc donner, vous avez vu donc l'interpellation d'Anaïg Lemeur à Valérie Létard, on en a beaucoup parlé. On en reparlera bien évidemment, mais également, on a fait un zoom de l'info, la nomination de David Benbassa à la présidence de Bien Ici. Voilà, le bienheureux qui revient d'ailleurs après avoir lancé Bien Ici pendant plusieurs années. Et donc on salue également sa nomination, on en a beaucoup parlé dans la presse, et notamment le journal L'Informé. Qui justement porte bien son nom parce qu'il était très bien informé. Voilà, c'était le petit clin d'œil du jour. Voilà pour le numéro de février 2025 du Grand Jury de la presse immobilière. Merci à nos journalistes, Eric Cala pour ImoWeek. Merci. C'était bien de vous revoir.
Bah écoutez, c'est un plaisir. Je redécouvre les micros de Radio Imo avec grand plaisir. Merci de l'invitation.
Vous voyez, on a plutôt bien évolué, dans le bon sens.
Bah oui, non, c'est très
le
bien.
Le bébé
c'est
que vous avez bien. Élevé est devenu un jeune
Vous
jeune
avez
adulte.
Des superbes jingles, ce qui, quand j'étais arrivé à l'époque, faisait un grand défaut. Là, aujourd'hui, franchement, qualité.
C'est pas mal, hein, c'est merci. Pas mal. Bourbonnais.
Avec plaisir.
Merci, en tout cas, vous êtes le bienvenu et bien naturellement un invité. Un immense merci à notre Régis Sébille, l'homme data de Bien Ici. On vous retrouve le mois prochain.
Bien sûr.
Pour avoir l'alpha et l'oméga des chiffres de l'immobilier. Un immense merci à Anthony Denet. Voilà, la voix de l'immobilier, on peut l'appeler la voix.
The voice.
Bonjour. Voilà, Anthony, journaliste à immobilier, journaliste immobilier. Un grand merci également à notre Bruno Monnier-Vinard. Et je le dis... Voilà, à partir de la page 124, nous avons le dossier du point qui paraît quasiment tous les deux ou trois mois, très complet. Et vous avez initié une séquence qui est très intéressante, c'est que vous donnez les prix étage par étage.
Voilà.
Avec des variations qui peuvent aller jusqu'à 10% quand même.
Jusqu'à 40%.
Jusqu'à 40%.
Entre 40 et 50% au sein des mêmes immeubles. Ouais.
Alors, dans le même immeuble, alors c'est pas valable pour tous les quartiers de Paris, bien évidemment, vous avez pris des éléments aussi iconiques. Ce qui est très intéressant dans le dossier immobilier du point, c'est pas parce que j'y contribue de temps en temps que je vais le dire, c'est que vous interrogez l'ensemble de la planète immobilière. J'ai regardé toutes les prises de parole. Là, il y a tout le monde. Voilà, c'est simple. Il y a tout l'écosystème représenté du luxe. Au plus petit, à l'accession, vous n'épargnez personne. Je trouve ça extrêmement intéressant. C'est dans les bacs. On peut les acheter dans les kiosques, bien évidemment. Le journal Le Point, qui est toujours en croissance d'audience. Je dis ça comme ça, mais je dis rien. Permettant, voilà. Merci, Bruno Monnier-Vinard. Et enfin, je vous propose qu'on en fasse un triomphe à notre invité qui a eu, avec beaucoup de courage, l'envie de venir chez nous voir ce soir pour ce grand jury qui a répondu directement, comme on le sait toujours, direct. Étayé. Merci à vous, Olivier Safar.
Merci de m'avoir reçu et à votre disposition.
Président de CaliSR, président de l'UNIS Grand Paris. Vous devriez effectivement prendre la parole plus souvent. C'est intéressant d'avoir des personnes qui connaissent bien leur dossier parce que vu la complexité de ce à quoi nous faisons face tous les jours, c'est très agréable parce qu'il y a des fois, je pense qu'avec Eric, Guillaume et toute l'équipe, on s'est retrouvé parfois dans certaines interviews un peu seul parfois, hein, on peut le dire comme ça. Voilà, prenez soin de vous, on se retrouve le mois prochain. Et bien sûr, le podcast, il est à y réécouter sur les applications qui vont bien comme d'habitude. Salut.
Le grand jury de la presse immobilière, une émission en partenariat avec Bien Ici, à réécouter et télécharger sur le site et l'appli radio.imo et sur toutes les plateformes de streaming.